Voilà le point où nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés à parler de ce domaine D0 à partir de ce que j'ai dit dans la première leçon, là, du mois de juin. Des hachures que j'ai mis ici, qui sont la conséquence de l'aliénation. Alors, ces hachures, je dis que le domaine des zéros, il est égal à lambda 0 multiplié par k 0. Bon. Qu'est-ce que c'est que lambda 0? Lambda 0, c'est égal à a facteur de s plus 1 plus 1. C'est ça la manière d'écrire la dimension. Donc il y a un lambda 0, c'est moi qui ai choisi ces lettres, a facteur de s plus 1 plus 1. Et il y a un k 0 qui est égal à a prime facteur de grand a plus 1 plus 1. Donc, en faisant le produit de ces deux expressions, on peut obtenir la formule, l'expression de lambda 0, k 0, c'est-à-dire l'expression du domaine qui est ici non hachuré en noir. Ces deux expressions disent que indiquent quelle est la partie perdue par le sujet dans son objet. Et ici, ce qui est perdu par l'autre, la partie perdue par l'autre dans son objet a priori. Vous voyez, ça correspond au fait d'annuler ici ceci, hein, et là cela. Qui est commune aux deux choses que je viens d'encercler, c'est cette partie-là qui est commune. C'est cette partie-ci. Et les hachures représentent l'union de A S plus 1 et de A' A plus 1. Ça veut dire que les deux parties qu'on hachure, c'est lambda 0 plus 1. Ici c'est lambda 0 plus 1 et ici c'est k 0 plus 1. On fait l'union de ces deux choses là et on les supprime. Donc ça fait que dans ce schéma vous avez déjà une zone que vous devez repérer, puisque je fais ces dessins depuis un bon moment, et que ce sont les diagrammes qui nous permettent d'étudier le mouvement des deux disques. Alors, je ne sais pas si tout le monde maintenant a capté qu'il s'agissait d'étudier deux disques. Qui s'appellent S et A. Et un autre disque qui s'appelle grand A et A'. Alors ça, ce sont des objets géométriques. Ça, ce sont des diagrammes de Verveille qui permettent d'écrire d'une manière algébrique, à la manière de Boulle, avec l'algèbre de Boulle, ces expressions qui se lisent sur les diagrammes. Donc, les hachures font que le trou petit a, il est dans le disque S, et que le trou petit a', il est dans le disque A, dans cette étape, dans toutes les étapes. Donc vous voyez, ça correspond à ces deux zones blanches qui sont dans le domaine, disons, d'ensemble, ce qui représente la diachronie du mouvement. Non, la synchronie du mouvement, puisque le mouvement, ça va être la diachronie. Donc ça, c'est l'étape alpha. c'est la première étape, les deux disques sont disjoints. Et j'utilise ce schéma synchronique pour situer à chaque étape, pour écrire aussi à chaque étape la situation des deux disques, en supprimant certaines zones de ce domaine, en les éteignant ou en les rallumant. Pourquoi les rallumer ? Et parce que les choses deviennent plus sérieuses à partir de l'étape suivante, quand il y a une intersection entre les deux trous, et que les deux trous sont encore en dehors de cette intersection. Alors là, je mets les couleurs. Voilà, l'intersection, je la mets en bleu. Donc entre l'étape alpha et l'étape bêta, il y a la zone intersection, il y a une partie de l'intersection des cercles S et A qui s'allume. Ça veut dire que dans la première étape, il n'y a pas d'intersection. Toute la zone qui est là au milieu, vous voyez que je vais cerner comme ça, toute la zone qui est l'intersection est éteinte dans l'étape alpha. Donc alpha, c'est le domaine de alpha, c'est le domaine zéro dans lequel on a supprimé. Alors faites attention dans cette petite algèbre, le fait de supprimer quelque chose, la soustraction s'écrit avec un plus comme l'addition. Ça, c'est une des caractéristiques de l'algèbre de Boole. L'intérêt qu'a cette façon, on peut expliquer très simplement comment se produit ce miracle, que le fait d'ajouter quelque chose, c'est la même chose que de le supprimer. Ça, je l'ai déjà dit depuis plus d'un an que je parle de cet algèbre de Boole, puisque mon chemin, c'est d'arriver à vous proposer des formules algébriques qui correspondent à l'aliénation, donc ça c'est déjà le cas, à la séparation, c'est ce que j'ai dit la semaine dernière et que je vais préciser, et qui permettent d'écrire la répétition, c'est-à-dire le lien qu'il y a entre les deux zones rouges qui sont ici et les deux zones vertes qui sont ici, le fait que le sujet va retrouver la partie perdue de son objet, il va le retrouver dans l'objet, dans le manque de l'autre et dans l'intersection. Puisque Lacan nous dit que la séparation, c'est une opération qui modifie l'intersection. C'est ce que j'ai expliqué la semaine dernière en lisant le passage des écrits en position de l'inconscient, où Lacan parle de ça. Alors à l'étape bêta, alors, des alpha, c'est donc des zéros plus l'intersection. Puisque toute l'intersection est supprimée, il n'y en a pas. Il faut mettre des crochets pour l'intersection. Parce qu'il faut qu'on suive bien l'état de l'intersection, puisque là, on nous dit que la séparation, c'est ce qui modifie l'intersection. Hein? Donc, il faut repérer dans la figure l'intersection. L'intersection en termes géométriques des disques trouvés, elle apparaît quand les disques se superposent. Et Lacan donc avait montré ça avec des disques, un disque troué jaune et un disque troué bleu, de manière à produire une superposition verte. Moi j'ai changé le chromatisme. Vous voyez, j'ai un chromatisme qui n'est pas un chromatisme optique ou physique. C'est uniquement une question de l'être. Les couleurs correspondent à des valeurs données aux lettres. Ce sont des valeurs et ce sont d'autres lettres. Les couleurs fonctionnent comme des lettres. Et donc le rouge correspond à la différence symétrique qu'il y a entre S et A. J'ai déjà barré toute une partie de A. Et le vert correspond à la différence symétrique qu'il y a entre grand A et A'. C'est ce qui permet à Lacan de commencer son explication avec des disques déjà troués, puisqu'il a déjà pris en compte l'aliénation du fait qu'il y a le trou au milieu. Vous voyez, l'aliénation fait que quelque chose se perd du côté de l'objet pour S et petit a, et pour grand A et petit a prime. Bon, je vais faire le dessin que j'ai déjà donné pour vous le rappeler. Le disque rouge, pourquoi est-ce qu'il est rouge? Parce que il a subi deux interventions logiques. Tout le monde voit là ici. Donc quand c'est en bas, c'est pas trop petit. Je le passe plus grand. Je vais faire plus gros. Bon, ça c'est une nouvelle fois l'explication des disques troués. Hein. Voilà, comme ça et comme ça. Vous voyez, la différence symétrique, je la mets en rouge. La différence symétrique dans la jette de boule, ça s'écrit avec un plus. Donc ce que Lacan appelle une différence morganienne d'aspect, c'est S plus A. Ça veut dire qu'on retire quelque chose. Qu'est-ce qu'on retire quand on fait S plus A? On retire l'intersection et l'extérieur. Donc ce qui est la différence symétrique, c'est ces deux parties. Et le choix forcé de l'aliénation, hein, du fait que A implique S, il n'y a pas de A sans S, ça conduit à rayer cette partie que j'ai assurée dans le diagramme. Sans mettre le rouge, j'ai pas mis de, sous mes hachures, là j'ai pas mis de rouge, et là j'ai pas mis de rouge ici et de vert ici, et puis du bleu. Mais au moins de. Je ne sais pas si vous avez assisté à ces leçons, mais au mois de février, j'ai montré toutes les zones colorées sans hachures, sans les hachures noires, sans qu'on supprime quoi que ce soit. Ce que vous constatez ici, quand vous hachurez une partie des zones rouges, vous voyez bien que ici, ce qui vous reste, c'est le disque troué. Hein, parce que si la partie hachurée, vous considérez, c'est la technique que Lacan appelle point de capiton, qu'il nomme et qu'il ne commande pas, hein, il le nomme très tôt. Vous voyez, vous avez comme ça ce gros point noir que vous pouvez réduire pour faire ce qui ressemble vraiment à un capitonnage, puisqu'il s'agit de la tangence de deux cercles. Et ensuite, pour obtenir les disques troués, ben, il faut rompre ce contact. Et c'est ce que Lacan fait constamment. C'est comme ça qu'il commence à faire son séminaire. Parce qu'il parle du point de capiton dans Subversion du sujet, mais il l'utilise dans le séminaire qui construit le graphe du désir. C'est le séminaire qui s'appelle Les formations de l'inconscient. Et dans les formations de l'inconscient, il fait bouger des cercles sur la sphère pour construire son graphe à sa manière inimitable et inimaginable avant lui. Ce qui fait que tout le monde s'est beaucoup gratté la tête sur ce graphe. Comment il le construit? Ben, il l'explique. C'est comme ce qui nous intéresse dans ces disques qui sont rigides. Les disques rigides sont des cercles qui bougent et qui vont capitonner, et plus que capitonner, puisqu'ils vont se superposer. Donc, ici, il y a une espèce de superposition qui disparaît. Voilà pour les disques de départ. Alors, Lacan précise que dans ces disques, pour que ça marche, pour que vous ayez un petit modèle géométrique et physique que vous pouvez faire fonctionner pour découvrir comment va vous apparaître la séparation, il dit qu'il faut que les trous qui sont à l'intérieur des disques ont comme diamètre le tiers du diamètre du grand cercle. Il faut que les trois longueurs qui sont là, ou les trois longueurs qui sont là, ce que je ne respecte pas dans mes dessins, puisque moi je fais de la géométrie, je ne fais pas de la géométrie métrique en plus, donc je triche, je raisonne sur des figures fausses. Mais si vous voulez voir le truc, il faut fabriquer des disques en plastique avec des trous. Et les trous doivent être d'un diamètre qui est le tiers du diamètre du disque. Vous voyez pourquoi? Parce que, regardez le tiers, si vous avez un tiers ici, un tiers là, là ici vous avez le tiers du bleu, du rouge qui se superpose avec le tiers de A, du vert. Ça c'est S et ça c'est A. Et là, vous voyez apparaître dans une largeur qui vaut le tiers du diamètre de chaque disque, vous avez là cette zone. Et c'est du fait de cet élément métrique que la chose est encore plus probante, c'est la question, qu'est-ce qui se passe si on continue à faire migrer les cercles, les disques, l'un vers l'autre, au point de se retrouver avec les deux trous tangents qui capitonnent, ou un point de capiton. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que le disque S enveloppe le trou A', et le disque A enveloppe, se superpose au trou petit a. Vous voyez, S est ici, A est ici, petit a' est là, et petit a est là. Donc ici, l'intersection, non seulement elle s'agrandit, mais en plus, elle se trouve maintenant enveloppée le capitonnage, la rencontre des deux membres. Et les disques capitonnent avec les membres de l'autre côté. Donc tout ça ici, c'est des points de tangence. Si vous respectez bien les mesures, c'est-à-dire l'aspect métrique de cette construction. Bon. Alors que ici, les trous sont en dehors, le trou A' et le trou A, ils sont en dehors de l'intersection. Et c'est ce passage de delta à delta, j'ai sauté sur une étape gamma que j'avais introduite au début, parce que je faisais les choses plus lentement, et donc j'avais créé une étape où les disques commençaient à mordre sur l'intersection, mais ils étaient encore en partie vides en dehors de l'intersection. Tandis que là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec les couleurs? Ici, il n'y a rien dans l'intersection, alors que ici, qu'est-ce qu'on voit apparaître dans l'intersection? Le trou A' qui devient rouge, parce que comme c'est un trou, il n'est pas vert. Il est un trou dans le disque A qui est vert. Et comme il est un trou, eh bien, on voit le rouge, puisque le rouge est en dessous. Et on voit le vert ici, dans la couleur du disque A, dans le trou petit a. Et c'est donc ce passage-là qui est crucial pour nous. Alors, je vais écrire, pour écrire ce passage, pour donc écrire ce qui se passe en matière de séparation, ce qui va produire ce lien énigmatique de la répétition freudienne. Hein, c'est un petit jouet qu'on fabrique comme le petit enfant de Freud là, qui avait amélioré son jeu avec de la ficelle. Il avait ajouté une ficelle à la bobine pour pouvoir justement exercer ce lien de la répétition. C'est ce qui intéresse tous les sujets. Qu'on baise ou qu'on baisse pas, qu'on mange ou qu'on mange pas, qu'on soit addict, je ne sais pas moi, au vélo ou à la trottinette, qu'on soit addict au tabac, à l'alcool ou à la cocaïne, c'est ça qui occupe toujours. Il n'y a pas de clinique psychanalytique s'il n'y a pas ce lien, s'il n'y a pas une préoccupation, puisque la question que se pose tout le monde, c'est, regardez dans le crime paranoïaque, pourquoi tant massacrer sa victime, hein? C'est cette répétition qui fait qu'il y a une relation à l'objet qui est tragique et absolue. Absolue, ça veut dire justement, nous dit Lacan dans Subversion, absolue, ça veut dire séparé. C'est-à-dire que ce n'est pas négociable. Ça veut dire que si un type ou une bonne femme se targue de psychanalyse, eh bien, il doit savoir, il pourrait savoir, il serait temps qu'il s'en occupe dans ses propres affaires, qu'il n'y a que le sujet qui peut dire et faire quelque chose de ça, mais qui le méconnaît aussi bien en même temps. Difficulté. Hein. L'anorexique va mourir, mais il ne saura pas pourquoi. Mais il est persuadé que l'enjeu en vaut la peine. C'est ça. Et c'est ça qu'il faut reconnaître. Donc ce n'est pas une question... Vous voyez, Lacan a beaucoup joué sur le terme de reconnaissance, parce que même quand il est venu ici, il savait avec à qui il avait affaire, là, les élèves d'Althusser, ou tous ces gens, ils étaient teintés de marxisme, comme les choses, pas la même chose que Lacan, mais Lévi-Strauss est un lecteur de Marx assidu, et Lacan aussi. Et vous voyez que, en matière d'aliénation, j'ai repris le terme d'aliénation, cette aliénation dont il est question ici, c'est pire. Mais il y a une aliénation dans le travail salarié, comme l'explique Marx, certainement, et c'est aussi, avec Freud, ça devient pire. Parce que non seulement le sujet est aliéné économiquement en vendant son travail, mais en plus, ce que Freud, lui, ne concevait pas très bien, mais ce que Lacan a expliqué grâce à Freud, c'est que le sujet salarié, il est pire qu'aliéné, il est fou. Il est rendu fou. Parce qu'il est dépossédé du produit de son travail. Et que qu'est-ce que fait le salariat, c'est qu'il déresponsabilise l'employé. Le salaire, c'est le fait du marché du travail, c'est le fait de vendre son travail. Et à ce prix, ce qui fait faire des économies aux capitalistes à côté du maître antique ou du maître qui pratiquait l'esclavage, puisque le patron n'a plus besoin de s'occuper de la santé, ni des enfants, ni de la famille, ni du type lui-même qui travaille, ni de sa santé, ni de la manière dont il se nourrit. Vous voyez, le paranoïaque Céline, il avait même dit, avant-guerre, dans les années 30, il a écrit un article, c'était « Comment se débarrasser des chômeurs ?» Il explique que c'est très simple, il suffit d'établir le tarif du welfare juste en dessous du minimum vital. Alors, à terme, les chômeurs sont moins nombreux. Bon, c'est parce que c'est un médecin, mais aussi c'est quelqu'un qui a une certaine acuité dans l'horreur, comme on le sait, ce qui ne l'a pas empêché de dire de commettre des erreurs et même des crimes, à mon avis, des crimes politiques, avec les trois pamphlets. Mais ça reste un paranoïaque quand même assez exemplaire. Et c'est bien cette question de la paranoïa, de la névrose, de la perversion, de la psychanalyse qui nous occupe. C'est le lien qu'il y a aussi, la répétition entre le joueur et le jeu. Vous voyez ? Et là, c'est très intéressant parce qu'il n'y a pas de substrat biologique, organique, physiologique, il n'y a pas d'accoutumance de la plasticité physiologique. On peut dire que c'est pas pareil, disent certains, mais pourtant c'est la même chose. Je veux dire que si vous voulez voir un très beau film sur le jeu, il y en a eu beaucoup, mais il y a un très beau film de Jacques Demy qui s'appelle La Baie des Anges avec Jeanne Moreau et un jeune acteur, je sais plus son nom. Ils sont tous les deux addicts au jeu, ils sont à La Baie des Anges, c'est à Nice, n'est-ce pas? Et la question qui se pose, c'est justement de savoir s'ils ne vont pas se flinguer. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Donc, le jeu également met le sujet crée un lien avec un objet qui est. Dans le jeu, c'est encore plus intéressant parce que c'est un lien avec l'espace du tapis vert, mais c'est aussi vrai au football. Hein, vous savez, aujourd'hui, les grandes phobies de masse, c'est les histoires de hooligans, d'accidents de masse dans les gradins avec des morts nombreux. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la même chose que la drogue. C'est aussi, là, ce sont des phénomènes de phobie qui sont devenus collectifs, comme le marché de la drogue, paraît-il, est un problème qui devient un problème économique et international. Bon, ça occupe la police, si vous voulez, mais le problème, c'est que les psychanalystes ne s'en occupent pas. Au sens où ce qu'ils pourraient faire, au moins, c'est faire entendre dans la cité que ces choses-là existent, alors qu'aujourd'hui, on nous dit, chez les Lacaniens, qui sont bien, bien, bien plus forts que les Freudiens, c'est pas comme les Anglais ou les Américains, ils nous disent que la phobie n'existe plus. Moi, j'ai lu ça dans une préparation d'un colloque, et mon ami Haddad, Gérard Haddad, il a même un jour quitté l'école de la cause parce qu'il a entendu le leader de cette foule dire que la phobie infantile n'existait plus. Alors, comme Haddad, il était en train de finir ses études de psychiatrie, et puis qu'il était dans un IMP en train de faire le docteur, il a quand même été un peu soufflé, et il est intervenu, et du coup ça a fait une fâcherie, hein, dans les sérails moyen-orientaux, quand on se fâche avec le vizir ou l'imam, il faut mieux s'en aller. Donc Haddad, il est parti de cette école. Et quand j'ai appris ça, je lui ai téléphoné pour l'encourager, pour lui dire que ce n'était pas ce qui lui arrivait de pire. Bon. Enfin, pour lui, de s'en aller de là. Donc, on nous dit qu'il n'y a plus de phobie. Bon, il y a de quoi rire, parce que, enfin, je ne sais pas si vous avez des enfants, si vous avez eu des enfants. Et puis alors, chez les adultes, et en masse, aujourd'hui, c'est quelque chose qui occupe. Je veux dire, alors c'est pour ça qu'on essaye de le confondre avec la psychose. C'est vrai que ça semble être justement un transfert sans analyse. Donc ça devient un délire, ça devient une psychose. Mais c'est un phénomène phobique. Même Madame Dolto s'en est aperçue en matière de narcose. Hein. Elle le dit très bien. Elle dit tout ce que vous me racontez, le dit-elle à un type qui lui demande une préface. Ça ressemble beaucoup à la phobie. Bon. Donc dans chacune des structures freudiennes du symptôme, comme il est question de s'intéresser aux fantasmes, puisque ça c'est sûr, Freud pour les trois structures freudiennes du symptôme, la perversion, la névrose et la psychose, qui sont dans des registres différents. La perversion, le fétiche et la phobie, c'est-à-dire l'objet d'une phobie, c'est dans l'ordre de la symbolisation et de l'expérience singulière du sujet. C'est pour ça qu'on a cru que c'était une recherche historique, une anamnèse, en espérant une abréaction. Et puis la psychose, c'est au contraire le rejet même de ce champ des névroses et des perversions. Hein. C'est-à-dire c'est le rejet même de la lisibilité de ce qui tracasse les sujets de la névrose et de la perversion, qui se demandent, mais pourquoi je ne suis pas un animal? Pourquoi ils viennent voir le psychiatre, ils vont dire, regardez, j'ai un corps, j'ai que des problèmes psychosomatiques, je suis malade, et pourquoi est-ce que je ne suis pas comme un animal? Je ne me balade pas comme les chats, quand ils ne sont pas trop névrosés, parce qu'ils deviennent domestiques. Mais disons, pourquoi je ne suis pas un... Et puis le pervers, lui, il vient voir l'analyse en disant, mais pourquoi je ne suis pas une bête féroce? Qu'est-ce qui fait que les mecs que j'emballe dans du plastique, je les étrangle pas tout de suite, ou je les découpe pas en morceaux? Ils se demandent pourquoi ils sont pas paranoïaques. Alors que le paranoïaque, dans la psychose, lui, il vient plutôt voir l'analyste pour lui demander pourquoi je suis pas une machine. C'est-à-dire, la réponse de la psychanalyse, enfin, ce qu'elle devrait être, si elle reconnaît cette question de la répétition, qui est une conséquence du langage, la réponse de la psychanalyse, c'est de dire, mais non, vous êtes sujet... C'est même pas la peine de le dire, il faut laisser avancer l'analyse, mais c'est la réponse, c'est vous êtes sujet du langage. Vous êtes sujet du langage, vous êtes un animal sujet du langage, et nous, les animaux sujets du langage, les parle-lettres, qui sont des marionnettes des lettres, moi je ne fais pas de l'ontologie, hein, c'est pas le par-lettre, pour moi c'est, je l'écris par-lettre, je l'écris comme ça. Hein, par-lettre. C'est pour ça que je vous propose des exercices de lettres pour apprendre à lire et à écrire, même si c'est algébrique. Donc, le par-lettre, à mon avis, c'est une marionnette des lettres. Il parle au travers des lettres. Hein, je faisais remarquer samedi que c'est très curieux quand les Espagnols, les gens de langue espagnole qui parlent français, ils disent nous, quand ils conjuguent le verbe danser, ils disent nous dansons. Alors pourquoi ils disent nous dansons? Parce que nous on écrit S et eux ils ont l'habitude de prononcer les S qu'ils lisent. Dans leur langue, quand il y a des S, on les prononce. Tandis que nous, si on écoute un français parler, si on parle français, on dit nous dansons, on ne dit pas nous dansons, n'est-ce pas? Et c'est comme ça, vous en avez une quantité énorme. Si vous écoutez quelqu'un parler, vous rendrez compte que. Il se réfère à ce qu'il croit être une plus grande sécurité, qui certainement peut être plus dogmatique, s'il se réfère à l'écrit. Et alors, dans le monde scolaire, c'est même une catastrophe. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'en France, par exemple, on est des champions de la lettre, et on a injecté des lettres grecques, hein, pour faire symptômes, au lieu de symptômes en latin. L'ancien système de production, c'était le latin. Le nouveau système de production, c'est le grec. Le symptôme, c'est toujours présent dans le symptôme. Lacan utilise ce procédé pour nous faire comprendre de quoi il retourne. Hein. Donc cette histoire de l'être, nous sommes des champions, mais alors justement, on ne prononce pas tout, loin de là, et ça crée un problème énorme à nos étrangers, l'écriture et la façon de parler le français, mais, vous voyez, on ne fait pas attention au fait que c'est toujours une référence plutôt scopique. On s'intéresse moins, dans la langue française, on s'intéresse moins au signifiant qu'à la lettre. Et à la lecture, il y a énormément de commentaires faits par des lettrés, justement, dans l'université, qui méconnaissent la dimension de l'énonciation et spécifique du signifiant, ce qui fait la différence avec l'écrit. Bon. Donc, moi, je propose de parcourir l'avanico, c'est-à-dire l'éventail de la parole depuis le trauma jusqu'à l'écrit dans le fantasme, une fois passé la castration dans le processus secondaire. Hein. Et donc, de s'intéresser à cet éventail dont Lacan nous dit que qu'est-ce que c'est que la structure du langage, ça c'est dans Encore, c'est page 100 dans l'édition du Seuil. Qu'est-ce que c'est que la structure du langage, parce qu'il y a des gens qui disent oui, Lacan il a dit que l'inconscient est structuré comme un langage, mais il n'a pas dit ce que c'est que le langage. Il a parfaitement dit ce que c'est que la structure du langage pour lui. Dans Encore il dit les autres ils font ce qu'ils veulent, là, il parlait à l'époque de, il était déjà, moi Encore il était déjà au Panthéon. Il parlait de ces histoires de structuralisme. Eux, la structure du langage, ils en font ce qu'ils veulent. Moi, pour moi, la structure du langage, c'est le principe d'inertie. C'est-à-dire que c'est quelque chose que dans les écrits, vous pourrez lire dans la question 4 de Radiophonie, où il revient sur cette posture galiléenne qui est la sienne, puisqu'il explique que Galilée vient après Kepler. Donc il semblerait que Freud, c'est Kepler, et que Lacan se met dans une posture galiléenne. Hein, vous connaissez le syllogisme de la fondamentale de la science occidentale, c'est Kepler, c'est les planètes ont des trajectoires elliptiques, il a découvert les équations, il a écrit ça, les équations elliptiques, les ellipses, et les planètes. Et le principe d'inertie, c'est Galilée. Hein, ça occupe les 5/7 des études de galiléennes de Coiré, le principe d'inertie. Et le principe d'inertie, il dit que si un corps ne subit aucune influence, le corps va en ligne droite. Bon, vous voyez que ça fait un syllogisme très simple à établir dans ses prémices. Vous avez les planètes parcourent des ellipses, donc elles ne vont pas en ligne droite, c'est la négation. Donc, le principe d'inertie, si elles subissent aucune influence, elles vont en ligne droite, comme on prend la réciproque de l'application. Si elles ne vont pas en ligne droite, alors elles subissent une influence. Ça s'appelle la contraposée. Et avec ces deux prémices, eh bien, vous pouvez conclure que les planètes subissent une influence. Bon. Et Newton, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit un machin au tableau, et il appelle ça... formule de la gravitation, et ça marche assez bien. Il a écrit la façon dont la distance entre les corps pouvait influer sur cette gravitation en fonction de l'inverse du carré de la distance qui les sépare. C'est mm sur d2 multiplié par g par le facteur gravitationnel en plus. On ne sait pas bien à l'époque ce que c'est. Et tout ça, Einstein va améliorer, non, en passant par Maxwell, hein, par le courant de déplacement, parce que Maxwell il va développer la physique et l'électromagnétisme jusqu'aux équations de Maxwell, et le courant de déplacement va réussir à résorber. Le courant de déplacement, c'est magnifique, c'était le fait d'une observation en laboratoire et qui n'avait pas d'explication dans les écritures newtoniennes et dans la suite. Donc ça, c'était un c'était un reste dans les équations de Maxwell. Les classiques, ils ont beaucoup ces restes. Vous savez, les calculs des restes dans les développements limités des fonctions transcendantes pour essayer de les ramener à des polynômes, des choses comme ça.